23h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
Tandis que les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se poursuivent sous la houlette des États-Unis et du Qatar, quel rôle joue exactement la France dans cette médiation? Décryptage à suivre. Deux mois, jour pour jour, qu'Israël bloque l'aide humanitaire aux frontières gazaouis. L'ONG Flottille de la Liberté a décidé de passer par la mer, mais le navire a été pris pour cible au large de Malte. L'ONG accuse Israël qui n'a pour l'instant pas réagi. Le renseignement intérieur allemand décide de classer le parti AfD en tant qu'extrémiste de droite. Les autorités pourront utiliser plus facilement des moyens de surveillance et de contrôle. Une décision qui fait réagir et qui relance le débat sur une éventuelle interdiction du parti aux prochaines élections. Et puis en France, le débat sur la nationalisation d'entreprises est de retour. Vous avez les titres, bienvenue. Une semaine après la signature d'une déclaration de principe, les discussions entre la RDC et le Rwanda se poursuivent sous la houlette des États-Unis et du Qatar. Mais la présence depuis quelques jours des délégués français dans les réunions de la médiation pose question. La France semble discrète mais reste bien présente dans les différentes étapes du processus. Alors quelles sont concrètement les formes d'implication française? Élément de réponse avec Passion Ligaudy.
La France est engagée à plusieurs niveaux dans ce processus de paix entre Kinshasa et Kigali, même si son rôle est parfois moins visible que celui des États-Unis ou du Qatar. D'abord, sur le plan politique, Emmanuel Macron s'est personnellement impliqué à deux reprises pour tenter une médiation directe entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. D'après ses services, il continue à échanger régulièrement avec eux, mais aussi plus récemment avec le président togolais Faure Gnassingbé, qui représente l'Union africaine. Ensuite, la France est l'un des co-initiateurs du processus de Doha. D'après des sources diplomatiques, le projet de médiation a été au départ porté conjointement par Paris et Doha. Troisième niveau d'implication, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris joue ici un rôle central en tant que porte-plume de la RDC, une position quasi centrale à l'ONU. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'en février dernier, la France a porté une résolution adoptée à l'unanimité qui condamne clairement l'offensive de la FCM-23 et la présence militaire rwandaise en RDC. Paris est aussi bien perçu du côté des Kigali qui apprécie l'approche française qui ne privilégie pas les sanctions. Quatrième point, la France siège au sein du comité de suivi international mis en place à Doha pour accompagner les étapes vers un accord de paix.
Au Soudan, au moins 27 civils ont été exécutés à En-Naoud, dans le centre du pays. Et ce, après la prise de la ville par les paramilitaires des forces de soutien rapide, selon le collectif Emergency Lawyers. Les FSR accusent les victimes de collaboration avec l'armée et ont aussi libéré des détenus, provoquant un chaos total. En-Naoud est un point stratégique vers le Darfour, bastion des FSR. Le conflit qui dure depuis avril 2023 a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Deux mois, jour pour jour, qu'Israël bloque l'aide humanitaire aux frontières gazaouis. Conséquence, l'ONG Flottille de la Liberté a décidé de passer par la mer. Mais le navire a été pris pour cible au large de Malte. L'ONG accuse Israël qui n'a pour l'instant pas réagi. Muriel Paradon.
Il est minuit 23 exactement lorsque le Conscience, un navire de la Flottille de la Liberté, est attaqué par deux drones armés, selon des militants à bord qui filment la scène. L'attaque provoque un incendie et troue la coque du bateau, provoquant une voie d'eau. Le navire envoie alors un signal de détresse, mais il ne sera pas secouru par les autorités maltaises, assure l'ONG, alors que le Conscience se trouve au large de Malte. L'Italie et Chypre interviennent finalement pour éteindre l'incendie. Il n'y a pas de blessés, mais une porte-parole de l'organisation dénonce un scandale. Israël est pointé du doigt. La Flottille de la Liberté comptait envoyer de l'aide humanitaire à Gaza, soumis à un blocus total depuis deux mois, plongeant les habitants du territoire palestinien dans une situation désespérée. La Flottille de la Liberté a déjà été visée dans le passé. En 2010, un de ses navires en route pour Gaza, le Mavi Marmara, avait subi un assaut de commandos israéliens. 9 militants turcs avaient été tués.
À Gaza, la situation humanitaire est dramatique. L'ONG Médecins sans frontières évoque une famine organisée. Les réserves de farine sont vides, l'eau est contaminée. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié d'abomination la situation dans le territoire palestinien et fait part de sa colère face à l'inaction pour secourir la population gazaouie. De son côté, Israël continue de bombarder l'enclave. Au moins 42 morts ce vendredi. L'État hébreu vise également la Syrie. Plus de 20 frappes ont été recensées à travers le pays dans la nuit de vendredi à samedi sur des sites militaires syriens. L'agence officielle syrienne Sana a annoncé qu'un civil avait été tué près de la capitale. Une frappe a également touché les alentours du palais présidentiel de Damas. Avertissement de l'État hébreu contre toute atteinte à la minorité druze de Syrie. Et ce, après plusieurs jours de violences confessionnelles entre des groupes armés liés au pouvoir syrien et des combattants druzes qui ont fait plus d'une centaine de morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Direction Berlin où le parti de l'Alternative pour l'Allemagne a été classé extrémiste de droite par le renseignement intérieur allemand. Concrètement, les autorités pourront utiliser plus facilement des moyens de surveillance et de contrôle, y compris des communications privées des membres du parti. Le renseignement allemand estime que l'idéologie de l'AfD dévalorise des groupes entiers de la population allemande et porte atteinte à leur dignité humaine. Une décision qui relance le débat sur une éventuelle interdiction aux prochaines élections. L'AfD est en pleine ascension et il était arrivé deuxième derrière les conservateurs. On écoute Beatrice von Storch, députée de l'AfD au Bundestag.
Nous allons en faire une affaire internationale. C'est un précédent très dangereux. Si l'opposition peut être interdite dans une démocratie occidentale sur ordre du gouvernement, alors la même chose pourrait se produire dans n'importe quel autre pays du monde, y compris la Turquie par exemple ou les États-Unis. Imaginez si Donald Trump voulait interdire les démocrates sur la base d'un rapport secret, il y aurait alors à juste titre un tollé général en Allemagne et tout le monde dirait « c'est une atteinte à la démocratie ». Quiconque agit ainsi n'est pas un démocrate et cette affirmation est vraie à l'étranger et elle est également vraie en Allemagne.
En France, le meurtrier d'Aboubacar Cissé a agi dans un contexte isolé, guidé par une envie obsessionnelle de tuer. C'est ce qu'indique ce vendredi la procureure du parquet de Nîmes lors de sa première conférence de presse sur ce dossier sensible. Il y a une semaine, le jeune Malien est décédé après avoir reçu des coups de couteau dans une mosquée du Gard, département du sud de la France. La magistrate a insisté qu'à ce stade, le parquet national antiterroriste n'a pas retenu la qualification terroriste. Les avocats de la famille Cissé ont pourtant annoncé leur intention de déposer une plainte pour que l'enquête soit requalifiée en assassinat terroriste. En France toujours, c'est le retour du débat sur les nationalisations d'entreprises. On vous en a parlé sur RFI, le sidérurgiste ArcelorMittal, malgré de bons résultats, projette de supprimer 600 emplois en France pour délocaliser en Inde. Face à cette situation, la gauche demande à l'État de monter au créneau, une solution qu'elle n'avait pourtant pas portée jusqu'au bout à l'époque. Victorien Villaume.
C'était en 2012, la gauche socialiste émet l'idée de nationaliser l'usine ArcelorMittal de Florange avant de finalement renoncer. 13 ans plus tard, la gauche est dans l'opposition et tous les partis de LFI au PS mettent cette idée sur la table. Nicolas Mayer-Rossignol.
La nationalisation, les États-Unis l'ont fait pour General Motors. Le Royaume-Uni l'a fait. L'Allemagne l'a fait. C'est pas des pays soviétiques. On ne peut pas dire d'un côté, il faut une souveraineté industrielle en France et pas tout faire pour défendre les emplois en France ou en Europe.
Nationaliser les salariés eux-mêmes voient ça comme le remède et le gouvernement se retrouve donc contraint de se positionner. La nationalisation n'est pas à l'ordre du jour, tranche le ministre Marc Ferracci sur BFM TV.
Il faut que la Commission européenne prenne des mesures extrêmement fortes pour éviter les importations d'acier chinois qui aujourd'hui font qu'Arcelor a suspendu un certain nombre d'investissements. Si on arrive à lutter et faire en sorte que Arcelor lutte à armes égales avec les Chinois en taxant, en limitant les importations, alors les investissements se feront, alors il y a un avenir pour la sidérurgie en France et en particulier à Dunkerque.
Face à ce refus, la gauche espère peser dans le dossier ArcelorMittal en passant par le Parlement. Le PS va déposer un texte de loi pour que l'État mette sous tutelle l'usine de Dunkerque.
En politique française toujours, les députés ont approuvé en commission la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Le texte a été soutenu par la majorité des représentants de la gauche et des groupes macronistes. Le Rassemblement national et les Républicains s'y sont opposés. Cette proposition de loi permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Après le climat et la fin de vie, Emmanuel Macron va lancer en juin une nouvelle convention citoyenne. C'est au tour de l'éducation. Les temps de vacances et les horaires scolaires seront notamment abordés. Et puis quelques mots de football avant de refermer ce journal. C'est fait pour le Paris FC. 6 mois après son rachat par la famille de Bernard Arnault, le club parisien est promu en Ligue 1. Une montée assurée grâce à leur match nul 1-1 contre Martigues ce vendredi soir.